Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode. Et sachez que j'enregistre cette intro au fin fond de la Nouvelle-Zélande dans un motel, donc je ne parle pas très fort. On retrouve donc Laura qui, après un burn-out et des envies de changement de vie, décide de partir en tour du monde avec son compagnon. Malheureusement, le Covid débarque dans nos vies. Et Laura va se retrouver coincée en Polynésie française pendant plus de 5 mois. Elle nous raconte son histoire, mais d'abord, jingle. Bienvenue dans votre podcast Hublot ou Couloir. Je suis Anne-Sophie et je vous emmène avec moi dans mes anecdotes de voyage. Salut Laura, comment ça va Laura?
Salut Anso, ça va très bien, et toi?
Ça va, merci d'avoir accepté mon invitation du coup pour intervenir sur ce podcast. On a eu l'occasion d'échanger et ton histoire est super intéressante, donc j'avais carrément envie de la partager. Donc ce que je te propose, parce que je sais que tu as changé de vie un peu ces dernières années, que tu as eu quand même un sacré tournant. Donc pour commencer et pour que nos auditeurs comprennent qui tu es aujourd'hui, je te propose qu'on comprenne qui tu étais en 2020. Donc, est-ce que tu peux nous présenter la Laura de 2020?
Ah oui, merci du coup beaucoup à toi déjà de me faire venir sur ton podcast. J'adore vraiment le concept de venir partager nos histoires de voyage. Et justement, donc en 2020, c'est avant mon gros premier voyage. Donc, j'ai pas encore fait de gros voyages. On va dire qu'en 2020, je suis une Laura qui peut faire des petits voyages de tourisme, 2-3 semaines par-ci par-là. Et à ce moment-là, je suis prof, donc prof d'histoire-géographie, et je suis justement passionnée de voyages, de géographie, et j'utilise mes vacances d'été pour faire justement tous les ans un voyage. Mais le fait est que le contexte, la vie, les mois qui, enfin mes premières années en tant qu'enseignante, on fait que je me suis au fur et à mesure un peu usée, et donc je vis un burn-out, donc le premier gros changement, on va dire, dans ma vie, c'est plutôt au niveau physique. J'ai des gros soucis de santé au niveau de mes intestins, et du coup je me mets à l'arrêt en même temps que le monde se met à l'arrêt, puisque c'est la période de pandémie, de Covid. Donc moi, c'est en début 2020 que mon corps se met à l'arrêt, et en mars, du coup, on entre tous en pause forcée, et moi je me dis bon, c'est un contexte qui finalement s'aligne avec mon contexte à moi. En tout cas, je suis perdue, je ne sais plus qui je suis, ce que je fais, voilà, la maladie, on va dire, s'invite dans ma vie, mais je le prends pas vraiment comme on va dire comme quelque chose de négatif, c'est plutôt comme une évidence qu'en fait, c'est mon corps qui m'alerte qu'il est temps de faire une pause et de faire un petit reset. Et donc, à ce moment-là, donc, mon mari, on est tous les deux, on était en plus sur le point d'acheter une maison, pour la petite anecdote.
D'accord.
Le jour où on veut aller signer pour cette maison, on se regarde et on se dit, mais non, en fait, c'est pas du tout le plan, là. La vie nous dit que là, il y a peut-être une marche arrière ou je sais pas, quelque chose à faire. Et donc, on avait rendez-vous le soir avec nos parents pour fêter justement le fait qu'on signait pour cette maison. Et ça faisait plusieurs semaines qu'on se trottait. Il y avait en tête une idée de voyage, justement, de gros voyage. On avait déjà voyagé, hein, donc comme je te dis, ça faisait plusieurs années qu'on était tous les deux en CDI. On voyageait tous les ans. Mais là, on avait envie de plus. Et je pense que nos études de géographie ont fait aussi qu'on avait envie d'aller sur le terrain, d'aller explorer un peu plus loin. En fait, on s'est dit, mais pourquoi on n'irait pas en voyage long, plus long, en fait, et on ferait une pause. Et donc, on s'est dit, mais il y a l'option PVT. Je pense que tu en as fait. Je sais pas si tu en as fait un PVT.
J'en ai fait plus ou moins un en Nouvelle-Zélande, mais j'ai jamais travaillé finalement. Donc.
Voilà. Bon, du coup, nous, c'est le PVT Nouvelle-Zélande qui nous a tout de suite attiré et plu, et on s'était renseigné un petit peu dessus. Et du coup, je pense que c'est aussi ce contexte. On cherchait à acheter naturellement, j'ai envie de dire, comme on a le CDI, après c'est la maison, et après ce sera les enfants, etc. En fait, on suivait la liste. Hein. On suivait la to-do.
Alors,
du coup, de la société.
J'ai déjà plein de questions.
Ah oui, pardon. Mais là, je parle.
Du coup, en 2020, tu as quel âge?
Alors, en 2020, je ne sais jamais mon âge parce que je suis de fin d'année. j'ai 29 ans. Donc, oui, c'est ça.
Donc, en mars 2020, toi, tu es déjà en arrêt de travail quand le Covid arrive ou pas?
C'est en janvier 2020 que je suis en début de burn-out et je suis en arrêt pendant le premier trimestre, on va dire, de l'année 2020. Par contre, après, il y a le Covid qui nous met en confinement. Mmh. Et ensuite, quand on est prof, il y a eu la fameuse continuité pédagogique. Donc là, on pouvait faire cours en ligne.
Okay.
Et donc, j'ai repris, mais à distance. Et donc, on va dire que mon corps supportait le fait que je puisse donner cours, mais sans me déplacer, sans être en classe directement physiquement. Donc, j'ai fini la fin d'année scolaire de 2020. Mais à distance, donc j'ai gardé mes élèves, et c'est après l'été 2020 que j'avais demandé une dispo. Donc je demande une dispo parce que justement on a cet objectif de respecter l'alerte que mon corps me lance, mm-hmm. et donc de se dire on va faire une pause, et en même temps de répondre à notre envie forte d'aller explorer et d'aller en voyage un peu plus que juste 2-3 semaines par an. Quoi.
Donc ta dispo, tu la demandes avant que le Covid arrive?
Je la demande en février-mars, en plein milieu, en fait, en plein milieu de la tempête.
Ouais.
Donc, moi, je suis dans la tempête, la mienne, on va dire, de ma vie, de mon corps. Mais je ne me dis pas, à ce moment-là, à aucun moment, que le monde va s'arrêter toute l'année 2020. Donc, je demande ma dispo. Et Lenny, lui, se projette plus dans une démission, parce que lui, il n'est pas du tout prof, il est dans le privé. Et on demande, dans la foulée, le visa PVT Nouvelle-Zélande.
Et attends, entre-temps, t'as annoncé à tes parents, oh, finalement, on n'a pas signé, on se barre pour un an.
Voilà. Je vous en doute, on a beaucoup des prises de décision très rapides. Donc en fait, le jour J, on annule la signature du compromis. On annule le rendez-vous avec l'agence et les propriétaires de la maison qu'on était sur le point d'acheter. On n'annule pas, par contre, le repas de famille pour soi-disant fêter la signature de la maison. Mais par contre, on leur annonce qu'en fait, non, changement de vie. On pense qu'on ne va pas acheter de maison, en tout cas cette année, ça c'est sûr. Et qu'on est peut-être même prêt à partir à l'étranger et pourquoi pas en Nouvelle-Zélande. À ce moment-là, on n'a pas encore du tout pris de visa. Enfin, on est plus dans l'idée de on vous prépare à quelque chose qui va sûrement se préparer, quoi.
Alors, réaction des parents ?
Réaction des parents sur le... Hein ? Donc, réaction one. C'est tellement... En fait, ça les surprend beaucoup parce que, pour le coup, vraiment... je pense que ça les... Comme pour beaucoup de parents, ça les rassure. Je pense qu'on coche les cases, nous aussi. Eux, ils ont coché leurs cases.
Ouais.
Ils aiment bien aussi, je pense, qu'on coche les nôtres. Et quand on annule... je pense que ça les déstabilise. Donc non, pour le coup, je pense qu'ils ont été surpris. En même temps, ils connaissent aussi notre caractère et ils savent que ça peut, enfin que ça colle, mais juste peut-être qu'ils s'attendaient pas à ce que ça se passe comme ça aussi vite.
Alors après, ce qui est bien, c'est que du coup, avec ton conjoint, vous avez été synchro parce que vous auriez pu ne pas avoir les mêmes envies aussi. Et ça, c'était un peu plus chiant.
Ah oui. Ouais. Ça, c'est vraiment, pour le coup, là, tu vois, avec le recul, je me dis, c'était la première. Grosse, enfin non, alors non, c'est pas la première, parce qu'on a aussi pareil, le jour où on a fait nos études de géographie ensemble, et en choisissant nos masters, on devait aller en parcours géographie des risques. Le jour où on devait valider nos dossiers et l'envoyer, finalement, on s'est regardé et on s'est dit, mais on prend toujours nos décisions en concertation, mais moi je me suis dit, je sais pas si j'ai envie de faire ce master-là, est-ce qu'on irait pas en géographie, mais alors je dis « on », mais parce qu'on s'imagine rarement l'un sans l'autre, en fait, on est un vieux couple, ça fait quoi 19... Ça va faire 19 ans cette année, donc oui, on est un vieux couple.
19 ans
Oui, attends, oui, 19 ans.
Mais tu connais depuis que 2005.
Depuis que j'ai 14 ans.
Hein. Ah ouais.
Donc oui, donc en fait, on est un couple assez fusionnel, ça c'est sûr, mais aussi où c'est que, enfin, on s'est pas rencontrés on était ni dans le même collège, ni dans le même lycée, on n'a pas fait nos études au début, moi je suis partie en médecine, lui il était en pharmacie, et finalement c'est après coup, on s'est retrouvé la passion commune de la géographie, et plus tard, aujourd'hui, le voyage, mais à partir du moment où on a commencé à faire nos études ensemble, on s'est rendu compte qu'on aimait vraiment être tout le temps ensemble, et donc je sais pas si c'est le fait qu'on ait fait notre licence ensemble, mais on s'imaginait faire aussi le master. Donc, qui dit choix de spécialité dit qu'il faut s'accorder dessus. Donc, première grosse, on va dire, sortie de route, là, c'était... c'est toujours à l'échéance. Donc, le jour où il faut valider nos dossiers, on change de master, en fait. On va en cartographie.
Donc, du coup, voilà.
Donc, je pense que nos parents, ils avaient déjà un peu compris que des fois, on réfléchit un peu et sur le moment, en fait, c'est l'écoute des ressentis. Ouais, c'est vraiment ça. C'est du coup sentir que, en fait, est-ce que c'est vraiment le chemin ? Et donc là, c'est pareil. On est face à le concret. On doit signer pour une maison. est-ce que c'est ça le chemin qu'on va prendre ou pas ? Donc non, finalement, on change complètement. On écoute justement notre ressenti. Et notre ressenti, sur ce moment-là, il nous dit, bah non, c'est le voyage, la géographie, et il faut peut-être aller explorer plutôt que pour le moment s'enfermer. Nous, on voyait ça comme un enfermement avant le gros confinement qui nous attend. C'était pas mal.
Bon, alors du coup, en mars 2020, donc tu as demandé une dispo pour l'année suivante et tu demandes le visa PVT du coup pour la Nouvelle-Zélande.
Ouais, et donc j'ai reçu la validation donc de ma dispo. Donc je sais qu'en septembre 2020, je suis libérée de mon poste et que je peux partir où je veux. Et le 16 mars 2020, on reçoit nos visas, donc c'est bon, c'est validé. On a passé cette étape. Le 19 mars 2020, les frontières de la Nouvelle-Zélande ferment. C'est donc bon, on se dit de toute façon je dois finir mon année scolaire parce que la dispo ça se demande toujours à l'avance pour l'année scolaire suivante. Donc là on est en 2020, l'année scolaire n'est pas terminée, moi je suis en continuité pédagogique, enfin il y a le Covid et tout ça, donc je termine l'année et je me dis bah c'est bon, cet été la grosse grippe sera passée quoi. Donc on va bien évidemment pouvoir partir, on s'inquiète pas du tout à ce moment-là. Par contre, on sait que les frontières sont fermées. Donc on se dit, bon, on espère que ça va réouvrir d'ici l'été 2020.
Donc tu passes ces mois à venir et tu vois que la Nouvelle-Zélande ne réouvre pas ses frontières.
Non, donc la Nouvelle-Zélande ne réouvre pas. Donc on se dit, bon, ben on partira en septembre, on va passer l'été. On a le déconfinement, je crois que c'était vers fin mai 2020, je crois. Et donc on s'est dit, bah allez, on profite des copains. On a vu personne pendant tous ces mois enfermés. Donc on profite. Par contre, bon, moi, mon corps, lui, il est toujours complètement KO. J'ai toujours mes problèmes digestifs. J'ai des hémorragies digestives, en fait. Donc c'est quand même assez lourd. Hein. Donc je me dis, c'est un mal pour un bien. Je me sens pas de partir à l'autre bout du monde en ayant des hémorragies digestives quotidiennes. Donc je me dis, il faut d'abord peut-être que continuer à trouver des solutions avec les médecins, avec les médicaments et avec mon nouveau mode de vie. Parce que dans ce contexte-là, donc, il y a aussi tout mon mode de vie que je change à ce moment-là. Donc je change mon alimentation, je change mon rapport au temps, mon rapport aussi au niveau du stress, la méditation. Enfin, je change plein de choses dans mon quotidien. Et je me dis que c'est bien de peut-être mettre en place tout ça, de guérir, entre guillemets, avant de partir.
Mm-hmm. Ok. Et arrive septembre, toujours pas de frontières ouvertes.
La Nouvelle-Zélande est toujours fermée. Donc, spoiler alerte, elle restera fermée 2 ans. Donc, voilà. On est loin de pouvoir avoir une porte d'entrée pour la Nouvelle-Zélande. Mais nous... Bah moi, ma dispo, en fait, pour moi, psychologiquement, 1er septembre 2020, c'est ça y est, je suis en dispo, je n'ai plus de salaire, je n'ai plus de poste, je ne vais pas passer mon année à être juste sur le canapé, quoi, c'est pas possible. Lenny, lui, il a démissionné, pareil, donc en fait, il avait démissionné pour l'été 2020. Donc on a passé l'été 2020 vraiment à se reposer, à se requinquer aussi tous les deux et tout ça. Mais par contre, septembre, non, maintenant, c'est bon, le voyage, il faut y aller, il faut démarrer. Quoi. Donc on sait qu'il y a... Le monde entier est fermé, toutes les frontières internationales sont vraiment globalement toutes fermées. Donc on se dit, on va acheter un van, mais un minivan. Donc on trouve un Kangoo. Il est en début d'aménagement, on termine l'aménagement pendant le mois d'octobre 2020. Et là on se dit, c'est bon, on va pouvoir partir et on va faire un tour en Europe. On s'est dit, l'Europe c'est quand même plutôt globalement ouvert. Et donc, arrive la fin du mois d'octobre, on a terminé l'aménagement du Kangoo, donc on est trop contents. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On entre dans le deuxième confinement, donc automne 2020, et toutes les frontières de l'Europe ferment. On se dit, non mais c'est pas possible, c'est pas de chance, mais bon, en même temps, il faut s'y attendre, mais je pense qu'on a une sorte d'espoir, que en fait ça va pas durer une éternité non plus, donc on se dit on partira après les vacances de Noël, partir en janvier. On avait déjà des plans pour faire aussi du woofing en Norvège, en Allemagne, on avait tout organisé en fait, tout était prêt dans notre tête, on n'avait plus que le top départ, on est devant la ligne d'arrivée, on fait des tests, on dort dans le van dans le jardin, histoire de dire on est quand même en voyage, tu vois, mais dans le jardin on s'est confiné. Mais non, ça reste fermé. Et donc, arrivent les fêtes de Noël 2020. Mmh. Et là, en fait, on est complètement déprimé. On se dit, c'est pas possible. On a pris, franchement, moi, j'ai une dispo. En fait, dans ma tête, moi, je suis pas du tout prête à ce moment-là à l'idée de démissionner. Parce que je suis passionnée par mon métier. Je sais qu'au niveau de la santé, il m'a usée. Mais par contre, parce que j'y ai mis énormément d'énergie, parce que passionnée, je mène beaucoup, beaucoup trop de projets quand je suis avec mes classes. Mais je sais que je n'ai qu'une envie. Ce sera après le voyage et après, soi-disant, ma pause, pour moi c'est juste une pause la dispo, je vais revenir en forme. Et donc, je me dis, il faut vraiment qu'on aille au bout de ce projet. Et en fait, on se dit, le PVT Nouvelle-Zélande, c'est quand même l'objectif premier à la base. Et donc, on se renseigne, on regarde et on se rend compte qu'il y a possibilité dans les mois à venir. Donc, c'est toujours la période du Covid, je pense, le plus dur, ça a été toujours ces points d'interrogation.
Ouais, tu sais jamais, jamais.
Et donc, on voit qu'il prévoit peut-être, dans quelques semaines ou mois, une bulle de voyage en Océanie. Donc, c'est-à-dire qu'il prévoyait que les personnes qui étaient dans la zone prévue pour la bulle et n'étaient pas allées dans d'autres pays en contact soi-disant avec le Covid. Et donc, une fois que tu es dans la bulle et que tu es resté suffisamment dans la bulle, tu pouvais peut-être voyager en interne en Océanie. Et donc, on se dit, où est-ce qu'on pourrait aller? Où est-ce que c'est ouvert en Océanie pour qu'on puisse, après avoir séjourné quelque temps dans cette fameuse bulle, pouvoir ensuite entrer en Nouvelle-Zélande? Pareil, donc là, c'est fait très, très rapidement. On est juste après les périodes de Noël, après le Nouvel An, début janvier 2021. Et on se rend compte qu'il y a la Polynésie française. Alors, on n'est pas du tout à la base attiré par ce genre de destination. Okay. Lénie lui dit que c'est les destinations farnientes où il n'y a rien à faire. On est juste sur une plage. Nous, on est beaucoup la randonnée ou la culture, l'histoire géo. Il faut qu'il y ait eu un passé, des vestiges, des musées, il faut qu'il y ait beaucoup de choses à explorer. Et donc la représentation à ce moment-là qu'on a, et surtout Lénie, c'est qu'on va en gros juste se poser les fesses sur la plage et rien faire. Mais bon, moi à ce moment-là je me dis pourquoi pas, moi je suis aussi en démarche de me reposer, donc pourquoi pas. Et donc, finalement, on se rend compte qu'il y a des vols pour la Polynésie française qui sont pas très chers parce que, justement, période Covid oblige, les compagnies aériennes bradent les prix. Et on trouve tous les deux pour un vol à 400 euros pour aller en Polynésie française. Donc on se dit, ah ouais. Donc, je me dis, le signe est quand même pas mal. Hein. Je me dis, c'est pas mal, on va, pourquoi pas, aller en Polynésie française. Sauf que nous, à ce moment-là, il faut se remémorer le contexte, c'est que chaque semaine, tout change dans le monde. Donc, en fait, on se dit... en fait, on part la semaine prochaine. Donc, on réserve un vol, mais en ayant à la base, on a notre van, on a tous nos affaires, enfin, on n'est pas du tout prêt, en fait. Mais donc, on se dit, tant pis, on part, ça veut dire qu'il faut prendre une décision. Donc, on est, je me souviens, chez nos parents, encore une fois, avec les fêtes, et on leur dit, le soir, au repas, au fait, la semaine prochaine, on part en Polynésie française, et peut-être qu'on ne vous revoit pas pendant un an ou plus, puisqu'après, si on peut, on saute en Nouvelle-Zélande, qu'on va prendre nos affaires et nos bagages dans l'idée et l'optique de partir pour un an ou plus. Donc voilà, la semaine prochaine, on se dit au revoir, quoi.
Réaction des parents?
Encore une fois, vous ne nous étonnez pas. En même temps, ils sont quand même préparés depuis plusieurs mois, depuis septembre, qu'on est sur la ligne de départ, on leur dit on va partir. Bon, ils se disent, tant mieux, ils ont trouvé une opportunité de pouvoir partir. Et en plus, on part plutôt loin. On ne part pas finalement en Espagne, tu vois. Donc, on est plutôt contents, on fait nos sacs. Je passe une semaine assez chargée quand même. Hein. On se dit, un PVT, déjà, ça se prépare. Là, on n'était plus du tout dans l'optique du PVT. On était plus dans l'optique de voyager en van en Europe. Donc, en fait, c'est la course, là. Donc, en fait, on a eu une semaine de préparatifs, mais tellement intense pour préparer nos affaires, nos sacs, le matériel. On était aussi partis avec l'idée de peut-être travailler en ligne, parce qu'on ne sait pas, en fait, où est-ce qu'on va et si on va pouvoir ou non travailler. Le Covid, c'est très, très flou. Donc, en fait, on prend aussi nos affaires numériques, donc les ordi tous les deux. Enfin, voilà, on part très chargé. Ça, c'est le gros problème.
Donc, la Polynésie française, ça fait partie un peu de la France. Donc, tu me disais que c'est pas les dom-toms, mais c'est les...
Pommes.
Les pommes.
Pays d'outre-mer.
Voilà. Donc, il y a quand même la législation française, plus ou moins. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'un visa pour y aller.
Alors non, on n'a pas besoin de visa parce qu'on est français. Voilà. Par contre, toute la réglementation Covid, elle s'applique dans le sens où il y a les tests à faire. Donc on est quand même dans une période où voyager, c'est pas le truc le plus facile, easy du monde. Donc en fait, administrativement, il y a énormément de choses à faire. Il faut remplir plein de questionnaires, il faut faire des tests antigéniques. Je me suis rappelé tout le vocabulaire du Covid, je m'en souvenais plus. Mais bon, il y a des tests à faire à telle heure. Il faut, je crois, faire 3 tests. Jour 1, ensuite 48 heures après, le jour J, il fallait faire plein de tests. Et
tu as fait 24 heures de vol avec un masque.
Plus, je crois, là c'était 24 ou 36 heures, je sais plus, confond maintenant les trajets, mais je sais que c'était très très long.
Ouais, c'est long.
Effectivement, mais je crois que c'était peut-être 24-30 heures, quelque chose comme ça, avec les masques, tout le long. Du coup, nous on habite le sud de la France, et donc le temps de trajet en train pour rejoindre Paris, déjà on reçoit un mail de la compagnie aérienne qui dit que Nous venons d'entrer dans une nouvelle législation. Nous allons vous demander un motif impérieux pour vous autorisait à entrer en Polynésie française. On dit, c'est quoi encore cette histoire de motif impérieux, quoi.
Donc là, t'es dans le train en direction de l'aéroport, on est d'accord?
Ouais. Ouais, ouais, on est avec chacun nos sacs à dos, chargés comme des mulets, le sac à l'arrière, le sac à l'avant pour le numérique. Lenny, c'est pareil, il est chargé plus de 21 ou 22 kilos. On est là avec tous nos gros sacs, on est parti pour le gros, gros départ. Et là, on reçoit ce mail dans le train, mais tu verrais nos têtes, on se décompose.
Ah bah ouais.
C'est le 16 mars, 19 mars, ça ferme les frontières. On prend notre van, on est prêt à démarrer, ouais. On ferme les frontières en Europe. Là, on arrive, on arrive bientôt à l'aéroport. Et là, on nous dit qu'on va devoir justifier d'un motif impérieux. Donc, on se renseigne, on passe tous les sites internet possibles parce que c'est vraiment jour J, enfin, c'est heure par heure que ça se passe. Donc, du coup, on regarde et on voit que le motif impérieux, c'est soit être polynésien, donc vivre en Polynésie, soit rejoindre de la famille en Polynésie, soit être médecin ou alors quelqu'un qui a un enjeu pour le Covid, en tout cas, d'être recruté pour venir en Polynésie française. Donc, évidemment, on n'a aucun de ces critères. Nous, on est en mode, on vient voyager. On est les petites touristes, là. Bref. Donc, non, il n'y a rien qui justifie ça. Mais bon, on se dit, on est dans le train, on va à Paris, de tous les cas. On verra bien à l'aéroport.
Ah,
on arrive... On arrive à l'aéroport et là, à la compagnie, on leur dit « Mais c'est quoi cette histoire de motif impérieux ?» Et ils disent qu'en fait, ça va passer dans la nuit, la législation se fait à une certaine heure, et comme on sera dans l'avion, ça devrait passer pour nous. Donc en gros, ils nous disent « Vous verrez bien à l'arrivée, quoi. Mmh. » En tout cas, l'embarquement se fait, donc on peut passer.
Okay.
On n'a pas à justifier le motif impérieux. Par contre, le vol d'après, si on avait pris le vol d'après, là, je pense que ça aurait été le cas. Et du coup, on arrive en Polynésie française au bout de 24-30 heures, je crois, et donc 4h30 du matin, et on pose le pied sur le sol. Et là, un sentiment de tous ces mois d'attente de se dire « mais ça y est, on y est, quoi ». Et donc, je sais pas, il y a une sorte de saveur, de bouffée d'émotion, là. Il fait hyper chaud, c'est l'humidité tropicale, on est en pleine saison des pluies, 4h30 du matin, je crois qu'il fait déjà plus de 32 degrés, enfin, c'est vraiment... Ouais. Alors qu'on vient de quitter Paris mi-janvier, il neigeait, je crois. Enfin, bref, donc du coup, c'est sûr que là, on a le petit saut qui se fait, et donc on a l'impression d'être arrivé en terre promise.
C'est clair. Donc là, t'arrives, donc tout se passe bien, à la douane, on te demande rien, donc tu rentres sur
non.
le territoire.
Par contre, on va dire le côté Covid, on nous demande tous les tests, on nous vérifie, il n'y a pas encore les passes sanitaires, hein, c'est pas encore l'époque, ça va venir, mais là, on est plus dans justifier qu'on n'a pas le Covid, montrer, voilà, patte blanche à ce niveau-là. Et on nous donne par contre un kit médical pour nous dire vous allez vous auto-tester pendant les 3 prochains jours et à la fin, il faudra venir en clinique pour vous faire un vrai test. Et tant que vous n'avez pas fait ça, en gros, vous êtes sous surveillance, quoi.
Ouais.
Si au bout de 3 jours, vous êtes positif, on ne sait pas encore ce qu'on fera de nous, mais on est sur la sellette, on va dire.
Ouais, tu ne peux pas trop circuler, tu aurais été en quarantaine de toute façon si tu avais été positif.
Non, on n'est pas en quarantaine. Par contre, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a le droit de bouger. Par contre, on fait nos autotests et au bout du 3e jour, c'est là qu'ils décident de notre sort.
Ouais. Et donc là, tu arrives en Polynésie française, tu ne sais pas vraiment pour combien de temps.
Non. On va faire le tour de l'archipel de la société. C'est dans notre idée, on est quand même en Polynésie française à la base pour faire... un saut de puce pour espérer pouvoir arriver en Nouvelle-Zélande, mais on se dit, quitte à être en Polynésie française, on va au moins faire le tour de l'archipel de la société. Donc, il y a plusieurs archipels en Polynésie, il y a les Tuamotu, les Marquises, les Australes, et donc l'archipel de la société, c'est vraiment l'archipel principal, avec donc Tahiti et les îles un peu plus connues du style Mouréa, Bora Bora, voilà, il y a toutes ces petites îles, et des îles qu'on ne connaît pas encore de nom à ce moment-là, mais qu'on a très hâte de découvrir, Mopiti, Raiatea, Taha et Huaine. Donc il y a 7 îles principales pour l'archipel de la société, et donc là on est un peu comme des touristes à ce moment-là, donc dans l'idée on va voyager en Polynésie avant de pouvoir rejoindre la vraie destination. Et se passe donc la première semaine où il y a tout qui se chamboule en fait, il y a les motifs impérieux qui viennent d'être mis en place, nous on fait nos 3 jours où on est un peu en stand-by, est-ce qu'on va rester, pas rester, est-ce qu'on va nous renvoyer si on a le Covid à Paris, on avait quand même bien fait attention avec les masques et tout, mais on espère ne pas l'avoir chopé dans l'aéroport, dans l'avion, enfin voilà, c'est quand même des zones où on se dit la contamination est peut-être plus facile que dans notre petite campagne du sud de la France.
C'est clair.
Voilà, et au final, au bout d'une semaine, je crois que c'est arrivé assez rapidement, le verdict tombe, finalement, ils décident, la Polynésie française, de fermer complètement leurs frontières pendant une durée indéterminée. En gros, on nous explique qu'il nous reste 10 jours pour soit rentrer en France, soit rester en Polynésie, mais sans possibilité de rentrer en France jusqu'à qu'ils réouvrent les frontières. Donc là, ça devient vraiment fermé. Et nous, on se dit, bah, on n'a pas fait tout ça pour venir 10 jours en Polynésie française. Bah, y en a, ils font des lunes de miel, effectivement, pour 10-15 jours. Mais nous, là, ce n'est pas du tout le plan. Donc, on se dit, bah, non, on prend le risque, on reste en Polynésie française jusqu'à ouverture possible, soit de la frontière pour rentrer ou aller quelque part autre dans le reste du monde, soit, bah, on espère, la Nouvelle-Zélande.
Donc là, vous n'avez pas hésité une seule seconde. Vous avez dit, tant pis, on reste. Mmh. La question, c'est, la Polynésie française, ça coûte cher. Du coup, vous aviez de l'argent, vous étiez sûr de pouvoir vous en sortir un petit bout de temps.
Alors, Lenny, lui, il avait démissionné, donc il avait eu une rupture conventionnelle. Donc, effectivement, il avait eu une prime de départ. Donc, on va dire qu'on part quand même avec un pécule. Mm-hmm. On était sur le point d'acheter une maison, on avait de l'apport.
L'apport de la maison.
On devait, dans tous les cas, on avait de l'argent de côté. Juste, on se dit, c'est quoi notre priorité ? C'est est-ce que quand on rentre, on veut acheter une maison tout de suite ? Ou est-ce que notre priorité, pour le moment, c'est voyager ? Donc, on a effectivement de l'argent de côté et on se dit, bah non, là, c'est pour le moment, l'argent, ça sert aussi à faire ce qu'on a besoin ou envie de faire. Et donc, le projet voyage, là, il est prioritaire. Donc, effectivement, on se dit, bah, pour le moment, on est en Polynésie française. Par contre, le contexte est que c'est en plus particulier, c'est que là, c'est le Covid. En fait, tous les hôtels sont fermés. Il n'y a aucun hôtel d'ouvert. On est en Polynésie, donc faut oublier, on n'est pas du tout dans l'ambiance lune de miel avec les hôtels sur pilotis. Donc, on sait dans tous les cas qu'on vient en Polynésie pour vivre en Polynésie, pas pour être en tourisme. Parce que, ouais, il n'y a pas du tout les infrastructures sont pas ouvertes pour ça. Donc, c'est, on va dire, on sait qu'on arrive dans un contexte particulier.
Bah, ça change le voyage. Ça fait que le voyage, du coup, est plus spécial et probablement plus magique que ce qui était prévu, du coup, à mon avis.
Ouais, mais c'est exactement ce qu'on se dit. C'est ce voyage-là, en fait, qu'on cherche à vivre. C'est pas du tout le voyage, où, comme je te disais, les 2-3 semaines par an où on est en mode total touriste. Là, on commence à faire notre première expérience de slow travel, du coup. Le slow travel où on voyage pour être un peu comme une petite expatriation, en fait. On est en voyage, mais on n'est pas expatrié non plus, puisqu'on n'a pas l'idée de s'installer, de prendre une location longue durée, mais voilà, on est dans vivre à la polynésienne ou vivre, bah, du coup, dans la culture dans laquelle on se trouve.
Alors, avant que tu me racontes comment ça s'est passé, du coup, ces semaines et ces mois, du coup, en Polynésie française, ça fait 10 jours que tu es là-bas et il me semble que tes problèmes de santé se règlent très vite, non ?
Ouais, déjà, le fait d'avoir en été 2020, septembre 2020, complètement été dans l'objectif de couper avec mon métier, déjà, ça a commencé à s'apaiser. Et quand on arrive en Polynésie, effectivement, bah là, au bout du premier mois, j'ai déjà complètement solutionné. Je n'ai plus aucun souci. Déjà, le régime alimentaire n'est pas le même. Donc, je sais que j'avais déjà enclenché, comme je t'ai dit, un changement alimentaire, un mode de vie beaucoup plus lent, justement. Et là, on rentre dans le slow travel. Donc, c'est encore un ralentissement de plus. Et en fait, je me rends compte que mon corps ne demandait que ça, juste une pause, ralentir. Et je me rends compte, effectivement, qu'il y a peut-être un lien avec aussi le métier que j'exerce, qui est le métier d'enseignant. Et moi, mon corps, il me parle vachement par des messages très avec des mots, quoi. Donc, tu travailles enseignant.
Ah
donc,
ouais.
Effectivement, j'étais au travail dès que j'ai été... Enfin, voilà, quand j'ai compris que travailler en étant enseignante, ça me faisait saigner, bah, là, c'est juste un déclic dans la tête. C'est quand j'ai eu cette réflexion-là que j'ai commencé à comprendre que, en fait, ouais, j'avais compris le message. Une fois que tu as compris le message, le corps, il n'a plus besoin de te l'envoyer, en fait. Donc, du coup, ben... ralentissement et jusqu'à complète, on va dire, guérison quand je suis effectivement en Polynésie, à l'autre bout du monde. Au bout d'un mois, il n'y a plus aucun produit inflammatoire que j'ingère, parce qu'en fait, il faut savoir, donc, comme tu dis, la Polynésie, c'est très très cher, mais en fait, c'est surtout très cher quand tu manges ou quand tu consommes les produits que tu as l'habitude de consommer quand tu es en France, donc les produits importés. Par contre, le mode de vie à la polynésienne locale, bah c'est des fruits frais, c'est de la mangue, de l'avocat, c'est du lait de coco, donc c'est pas des produits laitiers, il n'y a pas le fromage, il n'y a pas le beurre, enfin voilà, tout ça c'est très français, et donc on oublie la Normande française, là on est vraiment, donc manger du poisson, pêcher le jour même, c'est très très frais, et voilà, c'est... Pour le coup, ce régime alimentaire, je mange zéro sucre pendant plus d'un mois et demi, je crois. Je me suis fait une cure 0 sucre, donc pas de biscuits industriels. Enfin, on n'achète rien de fabriqué, en fait. On fait que du brut. Donc, on va au marché, on prend aussi la pêche locale. Enfin, c'est ultra frais, donc je me rends compte de à quel point l'alimentation, le mode de vie, l'état d'esprit bah, a un impact à ce moment-là complet sur mon rétablissement. Et, ouais. Et justement, voilà, l'objectif est atteint, en tout cas pour le côté faire ta pause, ouais, là c'est bon.
Ok, trop bien. Bon, alors, donc, vous passez quelques semaines en Polynésie. Comment vous vous logez? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez choisi une île? Comment vous avez fait?
La fameuse fermeture avec le point d'interrogation, on pensait que ça durerait justement quelques semaines. Ça a duré 5 mois. Mmh. Et donc, bah, comme on ne sait pas, en fait, c'est vraiment toujours très incertain. Donc, en fait, on avance au jour le jour. Donc là, on a fait les 10 premiers jours, on était sur Tahiti. Et après, on s'est dit qu'on avait envie d'aller sur l'île voisine. C'est l'île sœur, du coup, c'est Moorea. Et donc là, on réserve 1 mois de Airbnb, où c'est, en fait, là-bas, c'est des maisons traditionnelles, ça s'appelle les farés. Donc, on vit presque à l'extérieur, en fait. C'est pas du tout une maison en dur comme chez nous. C'est vraiment en bois, il y a des fenêtres, tout est ouvert. On entend les oiseaux, on a les geckos à l'intérieur. Enfin, bref, tout est un peu, tu vis comme si tu étais aussi un peu en extérieur. Et donc, le faré qu'on loue pendant 1 mois, il est dans le jardin. 2 personnes, du coup, vivent là-bas tout le temps.
Okay.
Et par contre, c'est des expatriés. Et lui est français et sa compagne, elle est d'Amsterdam. Et du coup, ils sont là depuis, je crois, 5-6 ans. Mais pour le coup, voilà, donc ils vivent à la polynésienne. Et donc, ils nous font une location dans leur jardin. Enfin, ils vivent eux-mêmes dans un faré, mais un peu plus moderne et un peu plus, on va dire, équipé que nous. Mais nous, on est vraiment... on arrive dans le traditionnel. Et on passe un gros mois à Moorea dans ce logement. Et c'est là que vraiment se fait le vrai sens du slow travel. Donc, on n'a pas de moyen de locomotion. C'est une petite île, Moorea. Hein. On peut faire le tour en scooter en quelques heures, mais on n'en a pas à ce moment-là. On n'a pas de vélo, on n'a pas de voiture, on n'a pas de scooter, on est à pied. Donc, on est avec nos gros backpacks. Il faut aller faire les courses, c'est à 2 km. Du coup, on est avec nos gros backpacks. Donc, ouais, on commence à expérimenter la vie très, très lente. Il n'y a pas d'eau potable. Ah oui, on est en France, hein, mais il n'y a pas d'eau potable dans le village où on est. En tout cas, au robinet. Donc, il faut pareil, aller chercher les gros packs d'eau à la fontaine, pareil, à 2 km. Donc, on a vraiment l'impression d'être à la vie sauvage, à l'ancienne, quoi. Mais ça, c'est aussi parce que pour le moment, on ne s'est pas encore organisé, on n'a pas encore de moyens de locomotion. Mais au bout de 2, 3, 4 jours, je crois qu'on commence à se renseigner sur le fait de louer un scooter. Slow, oui, mais pas non plus slow, slow, slow.
Ça fait long pour aller chercher l'eau potable, quoi.
Voilà. Donc, quand on a eu notre scooter... Je ne sais pas si voilà, ceux qui nous écoutent ont déjà l'expérience du scooter. Moi, j'en avais jamais vraiment fait. Mais tu as vraiment cette sensation de liberté, les cheveux au vent. Et là, vraiment, on commence à se rendre compte. Ouais, ça y est, on est là où on avait besoin et envie d'être. Donc, on fait le tour de l'île, je ne sais pas combien de fois. Ouais. On le fait tous les jours, au moins une fois. Mais on regarde, voilà, on explore un peu partout. On teste toutes les plages qu'il peut y avoir. On sympathise avec les locaux qu'on croise sur la route, sur le bord de la route. Voilà, on s'acclimate petit à petit comme ça.
Donc, t'as pris 1 mois de Airbnb dans cette petite île. Est-ce qu'après, t'as pris un autre Airbnb dans une autre île? Qu'est-ce qui s'est passé après sur les mois suivants?
Alors, voilà, du coup, on commence à être à 1 mois et demi en Polynésie. On a du budget, oui, mais on n'a pas non plus envie de tout mettre. Parce que même si c'est du Airbnb et que c'est pas hôtel de luxe, c'est quand même des prix assez élevés par rapport à nos habitudes de voyage. Même si on a la chance, et ça, c'est vraiment le luxe du voyage au temps du Covid, c'est que les prix sont quand même un peu bradés. Parce que, bah, il y a, pour le coup... Là, les frontières ont fermé depuis par exemple 2 semaines. Bah, ils savent que pendant un temps indéterminé, tous ceux qui font du Airbnb ou qui ont des locations, on appelle ça là-bas les pensions de famille, et ben, ils ne savent pas en fait quand est-ce que vont revenir les touristes. Et donc, ils se disent, bah, le peu qu'il y a, il faut peut-être baisser un peu les prix. Donc, on a au moins cette chance d'avoir accès à cette destination de rêve à un prix comme jamais on aurait pu en profiter. Et donc, à ce moment-là, on commence au bout du premier mois en Polynésie. On sait qu'il nous reste 15 jours de location. On commence à se projeter sur la suite. Donc, on sait qu'on veut aller explorer d'autres îles. Mais par contre, on essaye de se dire, on va peut-être éviter la location et on va chercher du woofing. Et donc, on s'inscrit sur des sites de woofing. On discute avec pas mal d'hôtes sur plusieurs îles, à Bora Bora. On a aussi à Raiatea. On a des plans pour dans les Tuamotu, donc un autre archipel, vers Rangiroa. Et donc, on se pose, voilà, on est un peu sur choisir quel profil ou quelle île, quelle aussi activité on va pouvoir faire. Et donc, à ce moment-là, on trouve un woofing sur la permaculture à Rayatea, qui nous dit, enfin voilà, on se dit que ça va être sympa et qu'on peut y rester 1 à 2 mois. Donc on se dit, ce qui est bien, c'est que c'est plutôt prolongé et assez long. Donc ouais. On se dit, comme on ne sait pas quand est-ce que les frontières vont rouvrir, bah, au moins 1 ou 2 mois de woofing, pourquoi pas, au moins on apprend quelque chose et en même temps, bah, on travaille le matin pour ensuite être nourri, logé. Donc au moins c'est gagnant-gagnant, c'est vraiment le principe du woofing. On n'en a jamais fait pour le moment, donc on se dit, on va tester ça. Et donc arrive donc le deuxième mois, ça fera 1 mois et demi, ouais, donc on rentre dans le deuxième mois et on arrive à Rayatea. Et là, à Rayatea, on est accueilli, mais je pense par le... Je ne sais pas si c'est le pire hôte qu'on aurait pu avoir, mais en fait, on sent tout de suite, la première heure, que ça ne va pas le faire du tout, en fait.
J'ai connu ça.
Voilà, mais en fait, on se dit, franchement, faut pas se fier à la première impression. Par contre, eux, et c'est ça le problème, se fient à la première impression. Et il s'avère que la personne qui nous reçoit, dès que je dis que je suis prof, se crispe instantanément.
Ah ouais.
Je pense que c'était... Il a arrêté l'école à 13 ans. Et je pense qu'il avait une haine envers l'éducation nationale et les profs. Et en fait, c'est à ce moment-là que tout s'est crispé et où bah, lui avait justement un a priori et des préjugés très, très, très ancrés, je pense, et que ça s'est tout de suite confirmé. Donc, en gros, il nous a fait comprendre que bah, c'était fini les vacances et que le woofing, bah, il allait m'apprendre la vie, en gros. Donc, en fait, c'était ça l'idée. Et donc, il ne m'a pas loupé, en fait. Et donc, il a fait... on est resté quand même 1 semaine. On s'est dit, on tient au moins 1 semaine pour vraiment essayer de voir, en place le dialogue, que ça se passe bien. Mais en fait, non, pas du tout. C'était vraiment... je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si c'était la personne en elle-même, son caractère, et si c'était comme ça avec toutes les personnes qui le recevaient, ou si c'était particulièrement juste la casquette de prof qui ne lui allait pas. Mais bon, après, on a découvert quand même pas mal de choses... dans la suite de notre voyage, sa renommée et on va dire inter-île connue.
D'accord.
Donc je me suis dit, finalement, c'est pas que nous, et même d'autres personnes qui ont fait du woofing chez lui bah, avaient un même avis. Donc
du coup, bon, vous partez au bout d'une semaine.
Ouais, on se dit, on va pas rester 2 mois, ça c'est sûr. Donc on tient 1 semaine, on apprend quelques trucs, mais voilà, on se dit, ça nous aura fait 1 semaine de pause, voilà, dans le budget, mais yeah, pas dans... En tout cas, on s'est ressenti remué, on s'est dit, non, franchement, on n'est pas venu à l'autre bout du monde pour être, on va dire, traité comme ça, dans ces conditions. Donc tout de suite, pendant même cette semaine, on commence déjà à chercher où est-ce qu'on peut aller. Donc on reste sur Rayatea, et là, on trouve pour encore la fin du mois, en fait, on se dit, on va faire 3 semaines, une autre location. Donc là, c'est plutôt une pension de famille.
Okay.
Et là, chez des Polynésiens. Donc vraiment, chez les locaux, c'est une mamie tahitienne de 80 et plus. Je ne sais plus exactement quel âge elle avait, mais bon, 80 ans. Et il y a son mari, il y a son fils qui a la soixantaine. On arrive vraiment en Polynésie. C'est là où commence la culture pure. Enfin, voilà, on se dit, ça va être un mois... vraiment très, très enrichissant. Et donc, on est aussi dans un faré, dans leur jardin. Donc, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont leur maison et une location dans leur jardin. Et en fait, on partage les repas, on partage vraiment beaucoup, beaucoup du quotidien. Et vraiment, voilà. Donc, on commence cette expérience à la polynésienne, à Rayatea.
Bon, ça devait être incroyable, ces 3 semaines-là.
Ah ouais. Pour le moment, on reste d'accord avec Lénie, mon mari, pour être d'accord que c'était la meilleure période de notre vie jusqu'à ce jour, quoi.
Ah ouais.
On a appris tellement, enfin, et puis c'est tellement une ouverture, c'est tellement d'échanges. En fait, on faisait partie de la famille, quoi. Ils nous ont fait faire les fêtes d'anniversaire. Ils appellent ça les bringues là-bas. Donc là, c'est la fête pendant tout le week-end. Ils chantent, il y a le ukulélé. Ils nous ont appris à faire les repas. Ils appellent ça le ma'a là-bas. Donc, on a appris plein de recettes. On a appris la danse. On a appris des chants. On a appris des choses sur l'histoire personnelle des personnes. Ils se livrent beaucoup. On est allés... donc, c'est protestant là-bas. Donc, ils nous ont emmenés à la messe. Ils voulaient absolument nous faire vivre leur quotidien. Donc, le dimanche, c'est la messe. Le matin, à 5h30, si tu viens avec moi, on va au marché et on va voir la pêche. Mais il faut se lever à 5h30. Viens voir ce lever de soleil. Ce spot est magnifique. Viens avec moi à cette cascade, il vient de pleuvoir, il faut que tu vois absolument la cascade juste après la pluie. Enfin, c'est que ça, en fait. En fait, on ne prévoit rien et on suit. Ils viennent taper à la porte, il faut que tu viennes voir ça. Et en fait, c'est vraiment... ouais, en fait, on suit le flow là,
ouais,
de ce qui se passe.
Le vrai échange, quoi. C'est vraiment ce qu'on cherche quand on voyage, quoi. La vraie vie locale, on va dire.
Ouais, c'est ça.
Du coup, vous restez que 3 semaines ou vous prolongez ?
Non, là, on reste 3 semaines parce que pour le coup, là, le prix,
ah ouais,
il vaut aussi. Alors, du coup, c'est enrichissant sur le sur le plan personnel, mais du coup, au niveau... là, on a vécu l'expérience, mais... Enfin, alors, pour le coup, c'est cher pour nous, mais c'est pas cher, en plus, pour ce que les prix qu'ils pratiquent habituellement. Eux, c'est moitié prix. Hein. Donc, on se dit vraiment, eux, ils font moitié prix, mais nous, c'est toujours trop cher, parce que c'est la Polynésie. Enfin, voilà, ça va faire plus de 2 mois et demi qu'on est en Polynésie. Là, on se dit... On va essayer d'aller voir d'autres îles pour espérer avoir au moins fait le tour de l'archipel de la société avant que ça réouvre. On sait toujours pas quand les frontières vont réouvrir, donc on se dit on va aller voir du côté de l'île qui est pareil jumelée avec Raiatea. Elles sont dans le même lagon, c'est l'île de Taha. En fait, il y a un seul récif qui entoure les deux îles et elles sont dans le même lagon. Donc, tu as Raiatea et Taha. Et donc, on arrive à Taha. Et c'est à l'époque où, je sais pas si tu suis Koh-Lanta, mais en tout cas, on a bien compris que... qu'il fallait suivre à ce moment-là, c'est que c'est le lieu de tournage du Koh Lanta, okay. Donc de 2021 et 2022, ça a été 2 ans d'affilée, et donc ils sont tellement fiers que ce soit choisi comme île pour cette émission. Donc en fait, on arrive chez une autre famille sur l'île de Taha, et là, il faut regarder le Koh Lanta, c'est juste à côté, et donc ils sont là avec nous, on va vous entraîner, il faut vous inscrire l'année prochaine, on va vous apprendre à ouvrir les cocos et tout, d'accord.
Trop bien, meilleur entraînement pour Koh Lanta, effectivement.
Voilà, c'est ça.
Et là, à ce moment-là, toujours pas de nouvelles de l'ouverture des frontières, de la Nouvelle-Zélande. Non, pour l'instant, on est...
Non.
Ok.
Non, là, on est... Voilà, donc là, on est encore une fois... Là, on est carrément chez l'habitant. Donc là, on n'est plus dans un faré à part dans le jardin. Là, on est dans une chambre. Et là, on partage vraiment tout, le petit-déj, tous les repas. On va encore une fois à la messe. Là, c'est la messe de Pâques. Donc, ils veulent absolument nous emmener à la messe. Et ils nous font la surprise au retour donc, de nous inviter au repas collectif. Donc, en fait, ils ont à l'église, ils ont une vraie vie communautaire. Ouais. Et donc, il y a le menu et le repas de Pâques qui se passe chez eux. Donc, vraiment, dans la famille qui nous accueille, c'est là que se retrouvent des 50 paroissiens. Et en fait, ils nous font la surprise d'organiser la fête d'anniversaire de Lenny.
Trop bien.
Parce que c'est son anniversaire. Et en fait, ils ont acheté un gâteau, ils ont fait de la déco. Nous, on croit qu'on est invité au repas de Pâques. Et en fait, ils nous font l'anniversaire de Lenny.
Ah, c'est trop bien.
Avec les chants marquisiens, parce qu'il y avait des marquisiens. Enfin... c'est vraiment, il n'y avait pas meilleur anniversaire possible, quoi.
Ah, c'est clair, c'est trop mignon. Donc ça, vous restez combien de temps sur cette île, du coup ?
Là, on est resté, je crois, 2 semaines, je pense. Ouais, celle-là, elle est vraiment toute petite, cette île. Donc là, on reste un peu moins longtemps.
Ok.
Et après, on prend la direction de Bora Bora. Et alors, il faut savoir qu'on est quand même dans l'optique d'être en slow travel et de faire au maximum ce qu'on peut pour réduire aussi notre... empreinte écologique, et donc tout l'archipel de la société, en fait, on l'a fait sans prendre l'avion.
Ok.
Parce que normalement, quand tu voyages en Polynésie, ouais. Bah, c'est très habituel de faire des sauts entre toutes les îles par avion, et c'est avec les avions à hélice, tu sais. Mais bon, moi, j'aime pas trop les avions à hélice. On a déjà pris le gros avion pour venir à l'autre bout du monde, donc en fait, on se renseigne pour faire le tour des îles par bateau.
Ok.
Donc, on rejoint, du coup, Bora Bora par bateau.
Ah, ça doit être
et donc,
très
on
bon.
Arrive à... Ouais, on arrive à Bora Bora. Et il faut savoir qu'en fait, Bora Bora, c'est 2 espaces géographiquement encore. T'as l'île centrale et ensuite t'as les Motu. Donc, c'est des sortes de petits îlots juste au bord du récif. Donc, le lagon paradisiaque des les personnes qui vont faire des lunes de miel, c'est sur les Motu, en fait, sur la partie extérieure de l'île. Et en fait, Bora Bora, c'est l'île intérieurement au niveau de l'île centrale qui est la plus pauvre en fait. Il y a un écart énorme entre les Motu avec les hôtels de luxe hyper paradisiaques 5 étoiles et ultra luxueux et donc avec beaucoup beaucoup d'argent et le centre de l'île de Bora Bora qui est lui très très pauvre. Et donc nous on va à Bora Bora mais on reste que au centre, on n'a pas du tout vu le côté paradisiaque même si on le voit en fait, mais on n'est pas on n'est pas sur les plages de sable fin et blanc. Il y en a quand même une, mais une seule sur Bora Bora. Alors que vraiment, les Motu, c'est que ça. Mais on a quand même le luxe de dire qu'on s'est baigné à Bora Bora sur la plus belle plage de sable fin du centre de l'île avec aucun touriste. On est les seuls, voilà. Tous les deux.
Ça, c'est magique, oui, parce que là, à ce moment-là, il n'y a pas de touristes, en fait, en Polynésie française.
Non, ça va faire 3 mois et demi que les frontières sont fermées. Donc, il y a ceux qui sont comme nous restés et ceux qui, au bout de 2 semaines ou 3 semaines, avaient terminé leur voyage, sont rentrés, en fait.
Ouais, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup non plus qui ont des mois et des mois devant eux pour pouvoir
rester. C'est ça, il faut avoir l'emploi du temps, les finances. Ouais. Enfin, du coup, nous, les finances, elles commencent à flamber. Ça commence un peu à nous inquiéter, mais c'est pour ça qu'au fur et à mesure, vraiment, du voyage, plus on avance et plus on réduit le budget et on se dit, en fait, en réduisant le budget, on a soi-disant dans notre esprit moins de confort, Mais c'est là que plus on avance et plus l'expérience du voyage est riche, parce qu'en fait, on vit chez l'habitant. Avant, on prenait, donc, comme je te disais, les farés extérieurs dans le jardin. Maintenant, on va dans une chambre, en fait. On prend une chambre chez les gens. Et jusqu'à ce qu'on arrive donc, sur l'île ensuite de Mopiti, c'est l'île juste à côté de Bora Bora. Elle fait 9 km, je crois, de circonférence. En 2 heures à pied, t'as fait le tour.
Okay.
Donc, vraiment, c'est une île minuscule. Ouais. Mais là, on est chez les habitants. On est les premiers à faire la location chez eux. Ils viennent tout juste de le faire. Découvrent avec nous ce que c'est que recevoir aussi des étrangers chez eux. Et pour savoir l'intimité qu'on a, c'est que la chambre, il n'y a pas de porte, il y a un rideau. Et le rideau ne fait que bouger, puisqu'en fait, il n'y a pas de porte dans la maison non plus. Donc, en fait, les courants d'air sont incessants. Donc, en fait, on sait qu'on va passer, on est resté, je crois, 10 jours. On va passer 10 jours avec eux, quoi, parce que le rideau ne ferme même pas.
Dans le salon, quoi.
Dans le salon, voilà. Mais pour le coup, tu vois, on réduit le budget, on pense réduire le confort, mais c'est avec Rayatea, le meilleur souvenir qu'on a de la Polynésie, c'est être chez cette famille et à tout partager. Tout partager, ouais. Jusqu'à se brosser les dents ensemble, quoi.
Ouais, t'as gardé contact avec certaines familles de là-bas?
Oui, Rayatea, ouais, on a gardé le contact. Ceux de Taha qui voulaient nous coacher pour Koh Lanta, on leur envoie les bons vœux de bonne année, ce genre de choses. Okay. Et ceux de Mopiti, en fait, c'était pas eux qui géraient, c'était son fils qui gérait. Donc, en fait, son fils, on l'a jamais vu, mais on a que le contact de son fils. Hein.
Tu passes donc 5 mois en Polynésie française. Quand est-ce que tu apprends que les frontières ont plus ou moins réouvert, en tout cas les frontières de la Polynésie française?
On est en mai 2021 et on apprend que vers le mois de juin, ça va réouvrir.
Okay.
Par contre, gros point noir sur le tableau, c'est qu'on a une seule destination ouverte, donc c'est les États-Unis.
Okay.
Et il y a une seule possibilité pour aller aux États-Unis, c'est d'être vacciné contre le Covid. Et pour sortir du territoire polynésien, dans tous les cas, ils nous imposent d'être vacciné et d'être tamponné par... alors, je ne sais plus exactement si c'était la présidence de la Polynésie, mais en tout cas, on va dire d'un haut niveau, d'administration, il faut qu'on valide qu'on ait fait nos doses de vaccin pour pouvoir sortir du territoire. Ou c'est le retour en France. Et à ce moment-là, on se dit, on n'a pas fait tout ça, attendu tout ce temps pour rentrer en France. Ouais. Donc, on sait que la seule porte de sortie, c'est les États-Unis. Et on sait que pour pouvoir sortir, il faut avoir fait 2 doses de vaccin. Et pour ça, en fait, il faut qu'on fasse donc une dose J1, et je crois que la deuxième dose, c'était un mois après. Donc à ce moment-là, quand on comprend que ça va être vers la fin du voyage, on va à Ouainé, la dernière île qu'on n'avait pas faite encore. On y reste 2 semaines, je crois. Et après, on termine, donc on va à Tahiti, c'est là où on peut se faire vacciner. Donc on se fait vacciner à Tahiti. On part un dernier mois à Mouréa. Pour attendre notre deuxième dose, en fait. Et donc, c'est comme ça que se sont terminés donc, le dernier mois et demi, donc 2 semaines à Ouainé et encore un mois à Mouréa. Et à ce moment-là, on a l'impression, quand on rentre à Mouréa, on sait qu'on doit patienter un mois pour notre deuxième dose, mais en fait, on a l'impression que c'est un mois béni. Enfin, du coup, on se dit, mais on est de retour à la maison. On a vraiment cette sensation, à l'étranger, d'être de retour à la maison. C'est très étrange. Et en fait, on passe le meilleur mois, encore une fois. C'est pour nous, on a eu Rayatea pour la découverte culturelle, les échanges avec les locaux à Mopiti. Mais alors à Mouréa, on a l'impression, en revenant là-bas, d'être dans la vie au quotidien. Donc de revenir à la maison et de pouvoir vivre notre vie comme on aimerait la vivre, en fait.
Ça m'étonne. Donc du coup, là, la Nouvelle-Zélande n'a toujours pas ouvert?
Non, parce que du coup, tout cet objectif, c'était de rester en Polynésie pour avoir cette fameuse bulle de voyage. Et donc non, en fait... La Nouvelle-Zélande n'ouvre toujours pas, donc on sait que si on veut continuer à voyager, il faut sortir de la Polynésie. Et donc, porte d'entrée, on arrive aux États-Unis et on arrive à New York pour 3 semaines. Donc on est toujours dans l'optique de faire du slow travel. Donc on se dit, on ne va pas faire juste une semaine, quitte à aller à New York, autant en profiter. Et c'est pareil, contexte Covid très particulier, ça vient juste de s'assouplir au niveau des conditions du Covid. Il n'y a plus le masque dans la rue, il y a 70% de vaccinés, donc pour eux c'est une super victoire, on peut enlever les masques, assouplissement. Et donc on arrive dans un New York, c'est le printemps, enfin là, c'est le mois de juin, ils sont ultra souriants, enfin, c'est vraiment la sensation que la vie recommence, reprend ses droits. C'est vraiment une très très belle ambiance. Donc on est très content à ce moment-là de sortir de la Polynésie et de son calme et de son rythme des îles pour arriver dans un monde assez urbain, effréné. Et donc on est content d'aller dans ce tourbillon-là et dans cette ambiance-là aussi.
Et là du coup c'est l'été 2021. logiquement, et tu es censée reprendre le travail en septembre.
Ouais, sauf qu'en fait, bah, comme on a fait que reporter, les dispos se demandent toujours à l'avance, donc en février-mars. Okay. Et donc en février-mars, on est en Polynésie, on est en plein au milieu de notre voyage, on ne sait pas si on ira ou pas en Nouvelle-Zélande. On se dit, bah non, je vais reporter, je vais redemander une dispo de plus, parce que pour moi, c'est impensable de ne pas avoir été jusqu'au bout du projet. Donc le PVT Nouvelle-Zélande n'est pas coché. Pour le coup, là, celui-là, j'ai envie de le cocher. Et du coup, bah, je redemande une dispo en fait, d'un an de plus. Donc, je sais que j'aurai pas de salaire pendant un an de plus. Le budget commence à nous engueuler un petit peu. Mais du coup, on se dit, bah, non, on va trouver un moyen. Lenny, lui, il a donc démissionné. Et en fait, il commence à réfléchir à pourquoi pas travailler en ligne et à se renseigner sur une reconversion dans la rédaction web SEO, donc dans le référencement sur Internet. Mmh. Moi, je sais que je veux toujours pas démissionner, donc je prolonge ma dispo. Donc, c'est toujours une fois reculer avant de sauter. Mais voilà. Et Lenny, lui, il est plus dans l'optique de moi, je veux poursuivre ce genre de vie-là et pourquoi pas travailler en ligne. Donc, il commence à réfléchir à poser les bases de cette reconversion-là. Moi, je suis pas encore à ce moment-là. Moi, je suis plutôt dans le voyage. Créer un blog voyage. On a commencé par créer un blog voyage. Donc, Lenny, lui, il est dans la rédaction. Moi, je suis dans les photos. Et je commence aussi à m'intéresser donc à la photo de voyage, la photo culinaire. Et moi, je suis plus dans l'objet de j'aime la pâtisserie, j'aime le culinaire. Donc Lenny, c'est plus le blog voyage qu'il va gérer. Et moi, j'ai pendant ce gros voyage en Polynésie, j'ai monté mon blog Madame Shiitake, en fait, le blog que je tiens aujourd'hui, donc blog culinaire, où je partage mes expériences, mes changements de vie, mon mode de vie slow, ma gestion du stress, des émotions et aussi l'alimentation anti-inflammatoire qui a fait que j'ai pu sortir de mon feu et de ma crise digestive à ce moment-là.
Donc j'allais y venir, on va pas refaire tout ce que tu as fait depuis 2021, mais qui est Laura en 2024?
Ah ouais, Laura en 2024. Alors du coup, tu vois, c'est écrit là, c'est Laura Madame Shiitake. Mmh. Donc c'est ma nouvelle casquette puisque j'ai retiré, ça y est, officiellement ma casquette de prof d'histoire géo.
Okay.
Je sais pas si c'est... J'allais dire celui du woofing à Rayatea qui m'a un peu fait comprendre que c'était peut-être toxique. Oui, effectivement, j'ai eu un petit rapport et j'ai fait un petit reset avec le rapport à l'éducation nationale, puisqu'il faut savoir que après, donc, on a fini notre voyage, on a été en Équateur pendant 2 mois. L'année 2022, on a continué à voyager en Asie, au Cambodge, à Singapour, à Bali. Enfin, on a continué le voyage. Mais toujours, moi, pour moi, dans cette idée qu'à la fin de ma deuxième dispo, j'allais reprendre, en fait, mon poste de prof. Et il faut savoir que quand j'ai reçu ma convocation pour mon poste, donc ma nouvelle affectation, une fois que j'avais donc réintégré l'éducation nationale, tous mes saignements intestinaux ont repris. Mais genre à l'instant, quoi. Enfin, pas à l'instant, mais le jour où je suis allée sur place. J'ai reçu ma convocation, je suis allée sur place pour me présenter au début de l'été. Et donc après, t'as tout l'été pour préparer ton année, en fait, mais donc tu vas te présenter. Et en fait, après ce rendez-vous, j'ai rencontré mon équipe. Le soir même, je re-saignais, quoi. Donc je me suis dit, c'est reparti de travailler enseignant. Donc ouais. Non. Donc voilà. Et donc j'ai passé un été à lutter intérieurement entre j'y vais pas, je quitte ma vie de prof ou je quitte ma vie de ma nouvelle vie, qu'en fait ça fait 2-3 ans que je commence à cheminer sur une nouvelle façon de vivre. Lenny, lui, il est rédacteur web, il a ses premiers clients, ça marche bien. Et en fait, moi, Lenny me dit, mais tu pars à l'abattoir, en fait. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ton choix? Et on va quand même jusqu'à déménager donc pour aller à cette fameuse rentrée scolaire. Mmh. Et le jour de la rentrée, je me réveille le matin, et à 6h du matin, devant le pas de la porte avec mon sac de prof, là. Mmh. Je dis non, en fait, je peux pas. Je suis tétanisée. J'arrive pas à passer la porte. J'ai déménagé il y a 2 jours avec toutes mes affaires. On est dans un nouvel appartement pour aller dans cette fameuse rentrée et je peux pas. Je peux pas. Je dis non. On appelle la propriétaire et on fait une annulation du bail ou j'en sais rien. Même si ça fait que 2 jours qu'on est là. Et le soir même, elle avait un autre locataire qui avait failli prendre l'appartement. Elle signe avec le. Toujours, tu sais, à la minute. Ouais. Donc on a le 30 août. Le 31 août, ça y est, on avait annulé notre bail, on avait redéménagé dans le sens inverse et on était de nouveau à la maison.
C'est dingue.
Parce que j'étais mutée à 3 heures de chez moi, donc ça aussi, ça m'embêtait. Donc voilà, et alors qu'on a notre famille qui nous prête une maison de campagne pour le temps de la reconversion, justement, donc ils nous proposaient ce plan-là. Donc là, on va dire que financièrement, ça nous arrange bien, on n'a pas de loyer à payer, mais pour le coup, c'était soit tu retournes prof et tu remplis le porte-monnaie, soit tu retournes dans la maison de campagne, c'est pas forcément chez nous, mais bon, il n'y a pas de loyer en attendant, donc pour le coup, on décide ça le jour J. Je ne vais pas à la rentrée. Par contre, je fais un début donc, de dépression. J'ai quand même un gros contre-coup. Oui. Mon corps, lui, s'arrête de saigner. Donc, c'est là que je me rends compte de à quel point c'est vraiment immédiat. Je ne saigne plus. Ça fait 2 mois tout l'été que je saigne. Et là, je ne vais pas à ma rentrée. Mon corps ne saigne plus. Par contre, je passe 4 mois au lit à complètement déprimée. J'appelle ça mon burn-out psychique. J'ai eu le burn-out physique au début de 2020 avec mon corps, et là c'est le burn-out psychique. Il faut vraiment que je digère le fait que je suis plus prof, en fait. Je peux plus être prof.
Et puis il faut te retrouver qui tu es, du coup, si t'es pas prof. Du coup, qu'est-ce qu'on fait après ça?
Voilà. Et donc c'est là que j'ai beaucoup beaucoup cheminé, que j'ai compris aussi tous les liens transgénérationnels de mon histoire. Une fois que j'ai compris ça, mon cerveau, c'est bon, il a dit, t'as compris le message, maintenant, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et donc, aujourd'hui, je suis donc Madame Shiitake,
okay.
Passionnée de pâtisserie, passionnée de cuisine. Aujourd'hui, encore plus passionnée de nutrition, de bien-être, de développement spirituel, de développement personnel, et donc tout ce qui est ce cheminement de soi pour apprendre à se nourrir sur tous les plans, en fait. J'ai compris qu'on ne se nourrit pas que d'alimentation, on se nourrit aussi de nos expériences. Moi, je me nourris beaucoup du voyage, justement, mais je me nourris aussi beaucoup du silence. J'ai besoin de calme.
Moi aussi.
La méditation aussi, ça me parle beaucoup. Et donc, tout ça, c'est slow travel en Polynésie de 5 mois. Je me nourris des échanges, des rencontres que je fais. Enfin, voilà, donc c'est vraiment ça. Et je suis là aujourd'hui, je pense, pour passer le message que faut apprendre à mieux se nourrir sur tous les plans. Ouais. C'est la nutrition holistique, du coup, mon nouveau message aujourd'hui.
Donc, du coup, je rebondis. Tu as un podcast sur le sujet?
On n'en est à pas beaucoup d'épisodes. C'est le début du podcast, mais il s'appelle Mange, Vie, Aime.
Okay.
Alors, je ne sais pas si vous avez la référence du film Mange, Prix, Aime.
J'espère que les auditeurs l'ont, parce que sinon...
C'est le fameux film du voyage, quoi. Mais c'est vraiment comme ça que j'ai vécu, en fait, mon année de voyage, de cheminement. Rééquilibrage alimentaire, pour le coup, moi, plus sainement, alors que Lise, dans son film, c'est plus pour aller vraiment se nourrir, retrouver goût à la vie alimentairement. Et vie, V-I-E, pas conjuguée, parce que du coup, je dis que dans le podcast, c'est le podcast où je remets la vie au centre pour justement finir avec les pulsions de mort, les pulsions, du coup, qu'on peut avoir transgénérationnelles. Voilà, c'est retrouver un sens à sa vie, la mission de vie. Et aime, parce que l'amour de soi, je pense que c'est important dans le monde d'aujourd'hui de prendre un peu du temps pour se regarder qui on est, faire de l'introspection. Et par l'amour de soi, en fait, on peut ensuite développer l'amour des autres aussi, être beaucoup plus dans l'échange. Et ouais, c'est les messages que je porte dans le podcast Mange, Vie, Aime.
J'adore, parfait. Et tu as aussi un blog et Instagram, j'imagine. Je mettrai bien évidemment tout en description pour qu'on vienne suivre ça. Ouais. Ton blog, il est surtout aussi sur la nutrition, les voyages, il y a quoi? Tu parles de quoi du coup?
Ouais, c'est le blog Madame Shiitake. Pourquoi j'ai mis Madame Shiitake? C'est parce qu'à l'époque où je l'ai créé, le blog, j'étais toujours Madame, j'étais la prof. Donc on m'appelait Madame, donc il fallait que je garde un petit Madame quelque part.
Okay.
Mais Shiitake, c'était la nouvelle personne. Donc du coup, c'est un champignon asiatique anti-inflammatoire. Donc c'était pour le côté la nutrition, mais aussi l'exotisme, le voyage. Donc j'y partage tout ce qui est des conseils en nutrition, des recettes anti-inflammatoires, des recettes bientôt aussi d'alimentation vivante, et tout ce qui est aussi pour l'apaisement général du corps et de l'esprit, du coup, avec l'apaisement mental. Je m'adresse aussi beaucoup aux personnes hypersensibles ou intuitives. Je parle aussi d'intuition. Donc c'est tout un voyage intérieur et nutritionnel.
Tout un programme.
Voilà, c'est ça.
Bon, super. Écoute, c'était un plaisir de te recevoir. Franchement, c'était hyper intéressant. Je pense qu'on pourrait rester des heures à discuter. On a une vision qui est assez similaire et du voyage et de la vie et de la spiritualité, je pense. Donc, c'est vrai que c'était hyper cool. Je vais essayer de le réduire un peu parce que c'est rare les épisodes qui font plus d'une heure sur mon podcast. Est-ce que tu as une dernière chose que tu veux dire à nos auditeurs en particulier?
Écoute, Anne-Sophie, c'était un plaisir aussi d'échanger avec toi, de partager toute cette histoire. J'ai vraiment la sensation que ça me permet moi aussi de poser, de mettre des mots sur tout ce que j'ai vécu. Là, j'ai fait récemment un podcast qui parle de la résilience et j'ai l'impression, tu vois, d'être arrivée au bout d'un chemin, mais que le chemin, en fait, il fait que commencer à s'ouvrir. Donc, j'espère que j'aurai inspiré des personnes et qu'ils n'hésitent pas à me contacter s'ils se sentent aussi de vouloir échanger plus personnellement en MP et voilà. Et en tout cas, au plaisir de continuer à échanger.
Carrément.
Et moi, je suis alors de la team Hublot. parce que je n'aime pas. Je veux être du côté de, ouais, de la curiosité, de voir, j'aime bien ça.
Et ben moi, avant, j'étais de la team Hublot et j'ai de plus en plus peur de l'avion. Du coup, oui. Je suis pas mal au niveau du couloir maintenant.
Bon, ben on pourra voyager côte à côte.
Exactement,
alors.
Exactement. Bon, ben écoute, merci encore. Merci à tous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Vous pouvez bien évidemment vous abonner, liker, partager. Et en attendant, n'oubliez pas, voyager, c'est toujours la meilleure des options. Bisous la team.